France Musique. Musique et moi.
Olivier Broche.
Priscille Lafitte. France Musique.
Le plus beau spectacle que l'on a pu contempler pendant 6 mois n'est plus tout à fait sûr de notre amour. Frédéric Nietzsche.
Que ne suis-je, la fougère, ou sur la fin d'un beau jour se repose ma bergère sous la garde de l'amour? Que ne suis-je, le zéphyr qui rafraîchit ses appâts, l'air que sa bouche respire, la fleur qui naît sous ses pas? Que ne suis-je, l'onde pure qui la reçoit en son sein? Que ne suis-je, la parure qui la couvre après le bain? Que ne suis-je, cette glace où son minois répété offre à nos yeux une grâce qui sourit à la beauté? Que ne puis-je, par un songe, tenir son cœur enchanté? Que ne puis-je, du mensonge, passer à la vérité? Les dieux qui m'ont donné l'être m'ont fait trop ambitieux, car enfin je voudrais être tout ce qui plaît à ses yeux.
Les tendres souhaits, un poème de Charles-Henri Riboulté, mis en musique par Antoine Albanaise. C'était Jean-François Novelli pour un spectacle intitulé « Ma vie de ténor », un roman qui m'intéresse beaucoup. On vient d'en entendre un extrait. Et la mise en scène est signée Olivier Broche. Olivier Broche, merci d'être l'invité de Musique et moi ce matin. Bienvenue sur France Musique.
Merci, merci à vous de m'accueillir.
Vous êtes comédien, vous avez longtemps travaillé avec Jérôme Deschamps et Macha Makaïev. Vous avez participé à la troupe des Deschiens, notamment à l'immense succès populaire des années 90 sur Canal+. Vous avez poursuivi une carrière d'acteur, de spectacle, seul en scène, en duo, en trio. Vous avez également tourné au cinéma avec Valérie Lemercier ou encore Agnès Jaoui. C'est la première fois, je crois, Olivier Broche, que vous passez de l'autre côté du miroir, du côté de la mise en scène. Dites-moi, Olivier Broche, vous avez cité Nietzsche en introduction de cette émission. Le plus beau spectacle que l'on a pu contempler pendant 3 mois n'est plus tout à fait sûr de notre amour. Quand est-ce que vous êtes sûr d'aimer un spectacle, Olivier Broche?
Alors, je peux être sûr de l'aimer immédiatement, je ne suis pas sûr de l'aimer toujours. Mais ce n'est pas la faute du spectacle, comme le dit Nietzsche, ça peut être de ma faute. Hein. Donc c'est comme tout, et pour toute chose, c'est-à-dire que la personne ou l'œuvre reste la même, mais c'est nous qui ne sommes pas toujours en mesure d'apprécier durablement ou... une chose, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Mais je dois dire que cette citation, si je la trouve très juste et un peu rassurante, hein, je reste assez fidèle à ce que j'ai aimé et à ce que j'aime.
Pourquoi elle est rassurante?
Elle est rassurante parce qu'elle nous permet quand même de nous exonérer de notre capacité à nous lasser des choses. Quelquefois, c'est vrai, on peut se lasser. Non, finalement, j'ai beaucoup aimé, mais je n'aime plus.
Bon, je pense que vous n'avez pas encore eu le temps de vous lasser du spectacle Ma vie de ténor, puisque vous êtes en...
Là, pour l'instant, non, pas tout à fait. Pas encore. Et c'est, j'espère que ça prendra, que ce ne sera pas pour tout de suite.
Le fait que Jean-François Novelli joue de la flûte à bec, c'est un clin d'œil à Bonne nuit les petits?
Alors, c'est plusieurs choses, parce que finalement, quand on met en scène, on essaie de savoir ce dont est capable la personne et ce qu'aime faire la personne qui est sur scène, et surtout que Jean-François Novelli d'abord n'est pas d'abord comédien. Alors comment faire avec un chanteur lyrique qui n'est pas comédien, etc. Il n'a pas la même respiration, le même rapport à la scène et au public. Alors on lui a demandé avec un ami assistante qui est scénographe et costumière, Kenza Berada, ce qu'il savait faire, ce qu'il aimait faire. Mais il sait faire du patin à roulettes, et il sait faire très bien, il en joue parfaitement bien, comme on a pu l'entendre, de la flûte à bec. Et ben donc il fait du patin à roulettes et de la flûte à bec dans le spectacle. Voilà.
Donc ce n'est pas un clin d'œil à Bonne nuit les petits.
Alors, évidemment, et en plus, évidemment, à quel moment on l'a introduit Bonne nuit les petits, cet air, c'est évidemment, le mieux c'était de le jouer à la flûte à bec, avec le clin d'œil. Cet air qui a été longtemps attribué à Pergolèse et qu'on attribue maintenant à Albanès.
Oui, les tendres souhaits.
Les tendres souhaits, ouais. Vivement.
On va voir quand est-ce qu'on est sûr d'aimer une musique aussi pendant cette émission.
Thank you.
Le 13e nocturne en do mineur, opus 48, numéro 1 de Frédéric Chopin. Alexis Weissenberg au piano. Quel souvenir est-ce que cette interprétation d'Alexis Weissenberg ravive chez vous?
Alors, c'est très lié. Je me souviens très bien, avec deux cassettes. Vous savez, petites cassettes que j'avais dans mon magnétophone et que j'écoutais en boucle. Et alors, je me souviens très bien. D'ailleurs, et je pense que c'est mon père qui a été très important dans ma découverte de la musique, qui m'avait fait acheter la cassette ou offert ces deux cassettes de tous les nocturnes de Chopin. Et il y avait celui-ci qui m'avait peut-être qui m'avait dit de faire particulièrement attention et qui m'avait particulièrement bouleversé. Et donc l'ensemble des nocturnes de Chopin me rappelle un livre qui n'a strictement rien à voir avec ça, que je lisais à l'époque, et tout en écoutant en boucle les nocturnes de Chopin, qui était Germinal de Zola, j'étais en troisième. Et donc j'écoutais, et alors longtemps après, à chaque fois que je les écoutais, je me replongeais dans le livre, alors il y avait une articulation qui était un peu compliquée entre les deux, et il a fallu que je les écoute beaucoup pour me débarrasser un petit peu du livre de Zola en quelque sorte, et qui reste en soi, qui fait que je les écoute toujours. Souvent et alors donc on reste lié souvent à une interprétation. Je ne dis pas du tout que c'est la meilleure. Combien d'autres ont pu jouer, et j'en ai écouté d'autres, hein, mais c'est toujours à celle-ci qu'il y a un moment précis où j'ai l'impression qu'il y a que lui qui arrive au moment de la fin du crescendo, etc. On a l'impression qu'il y a la musique là qui se détache, ça devient quelque chose de sublime, ouais, vraiment.
De lumineux.
Lumineux, totalement détaché. C'est incroyable. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais.
C'est ça qui vous émeut dans cette interprétation?
Vraiment, oui. C'est arrivé, comment dire, à cette légèreté dans la gravité, quoi. Vraiment, ça, c'est formidable, ça.
Vous vous êtes mis au piano à quel âge?
Oh ben, on m'y a mis.
Donc pas par choix?
Oh ben, 6-7 ans, on n'a pas vraiment... La question du choix ne se pose pas vraiment. J'ai appris à faire le piano pendant une petite dizaine d'années.
Vous vivez où avec vos parents?
Alors, j'étais à Villeneuve-Saint-Georges, je vivais à Valenton, je suis en 63. Et le piano, c'est un vieux professeur de piano de mon père, qui avait été le professeur de mon grand-père dans les années 20, quand mon grand-père était à l'école normale d'instituteurs, et qui lui-même avait été, m'a raconté mon père, ce monsieur Demeure, qui vivait donc à Milly-la-Forêt, où nous allions tous les dimanches, avait été lui-même, paraît-il, l'élève de Vincent d'Indy. À la Scola Cantorum, voilà.
Vous avez des frères et sœurs, Olivier Broche?
Oui, j'ai un frère aîné, une sœur cadette, oui.
Parce qu'on vous imagine un petit peu comme l'enfant des Deschiens, dans l'imaginaire populaire.
Le fils de
François Morel et Yolande Moreau, celui qui lit tout le temps. Peut-être êtes-vous très différent de ce personnage.
Tu nous fais chier à lire, toi. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps.
Je te signale que ton père te parle.
Hein? Qui nous fait chier à lire tout le temps? Qui c'est que c'est quoi son... Yourcenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien?
C'est un empereur romain.
Yourcenar, c'est un empereur romain?
Mais non, Adrien.
Oui, bon Dieu, hein, ça va, hein?
T'as qu'à répondre aussi?
Hein, qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé? C'est ton Yourcenar qui a taillé la haie? Bon, alors. Dis donc. Il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu.
T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor?
Non, c'est pas au programme à l'école.
C'est pas au programme à l'école.
Ça non plus, c'est pas au programme. Dis donc.
Et tiens.
Tiens, alors.
En plus.
Ah, mais dis donc. Alors, Poulidor, voilà un gars qui a commencé à 13 ans. Hein. Il a commencé à travailler à 13 ans.
Bon, tu écoutes quand on essaie de t'éduquer.
Il a commencé à 13 ans. Son père, il a acheté un vélo. C'était son premier vélo, il le dit. Hein. Il faisait tous les jours 10 km pour aller au travail, 10 km pour revenir. C'est ça qui a donné l'idée. Hein. Et ben, il n'a pas arrêté de faire de la bicyclette. Hein. Et il est devenu un champion, un os du Guy. Et ton Yourcenar, il a gagné le Tour de France?
Mais non, mais plus dans non plus.
Yourcenar, est-ce qu'il a gagné le Tour de France?
Mais c'est une femme.
Et Jeannie Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jeannie Longo, c'est pas une femme. C'est pas une femme, Jeannie Longo!
Oh, putain!
Dis, alors! Alors, il nous fait chier jusqu'au bac, hein! Fait chier jusqu'au bac, ça, je...
Ah, ça, il nous fera chier. On n'est pas sorti de l'auberge.
Les femmes sont plus fortes que les hommes.
Thank you.
Yehudi Menuhin au violon, Clifford Curzon au piano, dans Cortège de Lily Boulanger, qui elle est bien une femme compositrice. Vous avez vu, vous, Olivier Broche, Yehudi Menuhin en concert quand vous étiez enfant?
Oui, c'était quand j'habitais à Amiens avec mes parents entre 1974 et 1980. Nous allions régulièrement à la Maison de la Culture d'Amiens. Et Yehudi, avec sa sœur, s'était produit. Voilà, donc on a vu. Alors, mon père m'avait dit que c'était plus le très grand Menuhin, etc., qu'il avait fait pas mal de fautes et qu'il n'était pas invité comme il l'avait été, comme il l'avait vu plus jeune. Mais enfin, évidemment, c'était très émouvant pour ce qu'il représentait, ce que je pouvais apprécier moi à l'époque. Oui.
Vous avez grandi dans une famille de mélomanes, ce que j'entends.
C'est-à-dire que mon père, oui, est très mélomane, oui, très très mélomane. Écoute énormément de musique et toujours aujourd'hui très fidèle à France Musique, entre autres, par exemple.
Et il joue aussi un instrument?
Il joue, oui, là, il a joué aussi du piano, etc.
Est-ce que c'est une enfance où on riait?
Je ne sais pas. Quand vous dites ça, je ne sais pas si on rit. Je ne sais pas, à cause de la musique classique, est-ce qu'on rit dans les familles où on écoute beaucoup de musique classique? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, effectivement. Oui, on riait. Oui, c'était plutôt assez gai, oui, quand même.
L'envie de faire du théâtre est venue comment?
Ah ben ça c'est un petit peu par défaut, je dois vous avouer. C'est pas une vocation, c'est une vocation un petit peu tardive entre guillemets, pas si tardive que ça, parce que je me suis décidé à faire du théâtre après avoir découvert le véritablement le cinéma grâce à un prof de français en première. J'avais 16 ans donc, qui nous a amené à Amiens chez lui dans le collège La Providence où j'étais à Amiens un peu avant Macron et Ruffin dans les années 70. Et donc ce professeur de français extraordinaire qui s'appelle Monsieur Avril, qui était professeur aussi de latin et de grec, et nous avait amené chez lui pour voir des films d'Hitchcock sur son magnétoscope, les premiers gros magnétoscopes avec les grosses cassettes. Et j'ai découvert L'Inconnu du Nord Express, Psychose, La Mort aux trousses, ces temps de films. C'est ça qui a décidé vraiment, et j'ai aimé le cinéma. Et à la Sorbonne, en faisant des lettres, je me suis inscrit à l'association théâtrale de la Sorbonne. J'ai fait jouer une pièce et puis je me suis dit, oui, peut-être que ça se peut pas mal, voilà.
Alors, vous entendez un petit peu plus tôt avec François Morel et Yolande Moreau. C'est de l'improvisation, ces moments-là?
Oui, mais ça, c'est de l'improvisation et c'est le génie. Et je pèse mes mots de François Morel. Moi, je le trouve tellement drôle, tellement extraordinaire. Il a une invention lui-même quand il est parti dans cette improvisation là-dessus. Mais puis alors après, ça se conclut, les femmes sont plus fortes que les hommes. On se demande d'où ça vient et pourquoi une telle conclusion. Mais voilà, c'est les miracles de l'improvisation et à laquelle il est arrivé. Et donc l'invention, alors donc, évidemment, il rebondissait génialement sur les petits trucs que je lui envoyais. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était passé comme ça. Jérôme, il m'avait demandé d'apporter un bouquin, d'essayer de faire un truc à partir des livres parce qu'il savait que je lisais beaucoup, etc. Et que je parlais pas mal de livres et de cinéma, quoi. Et donc, j'avais choisi, comme ça, j'étais arrivé avec Les Mémoires d'Adrien et je n'avais pas imaginé que ça puisse autant inspirer François.
Un bon matin, Petit Pierre ouvrit la porte du jardin.
Petit Pierre, tu penses à fermer la porte?
Là, il va y penser.
Oui, il était en l'air.
Et s'en alla dans les grands prés verts.
Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau à mie de pierre.
« Tout est calme, ici » gazouillait-il gaiement.
« Vous le faites bien, le gazouillis, comment vous le... »
Comment je fais ?
Oui.
« Tout est calme, ici !»
C'est très réussi.
Je vous remercie.
Thank you.
vos deux compères des Deschiens.
Je me souviens très très bien de l'enregistrement de
François Morel
de Loulou, et etc. C'était un truc forain, etc. Et comment s'appelle l'instrument là?
L'orgue de Barbarie.
C'était un orgue de Barbarie, voilà, c'est ça.
Pierre Charial.
C'était formidable, ils étaient super drôles.
Le même Pierre Charial qu'on entend d'ailleurs dans le générique d'entrée de cette émission, dans la musique de Darius Milhaud, avec l'ensemble instrumental de Basse Normandie. Qu'est-ce qui fait qu'une improvisation est ratée ou réussie? Comment on juge ça?
Bah, le problème des improvisations comme ça, c'est qu'elles s'étaient reprises. Donc, il y a Jérôme Deschamps et Machin Makaïef proposaient le sujet, donnaient quelques idées, l'improvisation partait, soit elle fonctionnait, soit elle fonctionnait pas, et puis, peut-être quelquefois on pouvait abandonner l'idée, puis quelquefois elle était reprise. En général, fallait peut-être, je sais pas, 3-4 prises pour trouver la bonne. D'autant plus qu'il fallait quelquefois, elle s'étirait un petit peu, et fallait réduire, je me souviens plus, il fallait que ça dure pas plus de 3 minutes, quelque chose comme ça, hein, la durée télévisuelle qui nous était impartie. Donc il fallait réduire, et il faisait des gestes, et ça leur concluait, etc. Puis souvent, bon, il y avait des trucs qui rataient, parce que quelqu'un se riait bêtement, etc. Une blague de Morel, et Saladin riait assez souvent, moi aussi. Donc ça a gâché quelques prises.
Bon. Est-ce que vous êtes plutôt intimide, Olivier Broche?
J'ai vaincu un peu ma timidité, mais à la base, oui, très 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 timide. Mais ça va mieux.
Les timides, ça se tortille, ça s'entortille, ça sautille, ça se met en vrille, ça se recroqueville, ça rêve d'être un lapin. Peu importe d'où ils sortent, mes feuilles mortes, quand le vent les porte devant nos portes, on dirait qu'ils portent une valise dans chaque main. Les timides suivent l'ombre, l'ombre sombre de leur ombre. Seule la pénombre, c'est le nombre de leur pudeur, de levantin. Ils se plissent, ils pâlissent, ils jaunissent, ils rosissent, ils rougissent, s'écrevissent, une valise dans chaque main. Mais les timides, un soir d'audace, devant leur classe, rêvant d'espace, mettent leur cuirasse, et à leur place, allons Paris, tiens-toi bien, et vive la gare, Saint-Lazare. Mais on s'égare, on s'effare, on se désembarre, et on repart, une valise dans chaque main. Les timides, quand ils chavirent pour une Elvire, ont des soupirs, ont des désirs qu'ils désirent dire, mais ils n'osent pas bien. Et leur maîtresse, plus prêtresse en ivresse qu'en tendresse, un soir les laisse du bout des fesses, une valise dans chaque main. Les timides alors vieillissent, alors finissent, se rapetissent, et quand ils glissent dans les abysses, je veux dire quand ils meurent, n'osent rien dire, rien maudire, n'osent frémir, n'osent sourire, juste un soupir, et ils meurent, une valise
sur la cave.
Jacques Brel, Les Timides, à l'Olympia en octobre 1964.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Olivier Broche est l'invité de Musique et moi ce matin. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail de Jacques Brel ? C'est le travail sur le texte, sur la prosodie ?
Oh ben c'est d'abord, je commencerai pas par dire le mot intéressant. D'abord, j'ai été sensible à ça, j'ai grandi avec ça. C'était un coffret que m'avait offert ma marraine. Et on avait, vous avez tout Brel dedans, donc c'était parmi, vous savez, les premiers disques qu'on a et qu'on écoute en boucle, quoi, et puis qui décident de tout d'une certaine manière après. Et donc voilà, donc j'écoutais ça et puis après on l'a vu à la télé et puis c'est je pense que c'est ce qui me touche et ce que ça c'est valable pour tout, c'est l'engagement, c'est l'investissement, le degré d'investissement dans quelque chose, et ça c'est valable pour la musique pure instrumentale, etc., parmi tous les morceaux, je crois, dont je vous ai parlé, dont je pourrais parler avec les mêmes termes. C'est-à-dire une espèce d'engagement qui traduit une grande fragilité, mais pour autant, comme c'est timide, mais qui vous permet de vaincre votre timidité, c'est-à-dire qu'on, il fonce, quoi. Et même si ça marche pas, c'est pas très grave. Le principal, c'est d'y être allé, quoi.
Vous faites partie de la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makaïaf à partir de 1992.
Oui, c'est ça. Oui, vite.
Et votre premier spectacle avec eux, c'est Le Lapin Chasseur?
C'est une reprise que j'avais remplacé un garçon qui s'appelait Maurice Lamy, qui avait créé le rôle en 1989 à Chaillot. Et moi, il était parti et il m'avait proposé, parce que j'avais fait un stage avec eux quelques années auparavant. Et il m'avait proposé, voilà, de reprendre ce rôle-là. Et donc, je l'avais repris. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment, voilà, Saladin, Morel, Biour, Duquesne, Lorella, etc.
Comment se passe le travail avec Jérôme Deschamps et Macha Makaïaf sur ce spectacle-là ?
Alors, donc sur ce spectacle-là, je peux l'apprécier autant que ce qu'on m'a raconté, mais je sais après, pour avoir créé d'autres spectacles avec eux, que ça part d'idées qu'ils ont très générales, et ensuite ça partait à base aussi d'improvisation, d'essayer des choses, et à partir de toutes ces propositions qu'ils dirigeaient, finissaient par émerger un certain nombre de moments. Et de toutes ces moments, ils en faisaient, finalement, ils créaient une histoire, des histoires, qui étaient portées donc par ces comédiens. Et ce qui était essentiel, c'est le montage de toutes ces histoires, la scénographie, la lumière, et évidemment, à la fois la musique et les objets, sachant que les uns et les autres étaient très liés, fondus l'un dans l'autre, etc., comme on l'entend dans tous les spectacles. C'est ça qui était extraordinaire, hein, vraiment. Et le premier spectacle, et c'est ça qui m'avait ébloui, que j'avais vu deux un peu par hasard, comme ça, je sais plus quoi, en 85, je crois, j'étais allé chercher des places Télérama, des places gratuites, boulevard Malesherbes, j'y habitais, j'étais comme ça un matin, tiens, des places gratuites pour tel spectacle, j'avais jamais entendu parler, La Veillée. Et ça avait été à Nanterre, j'étais allé à Nanterre avec une amie, Stéphanie, on est allé voir ça, et je me souviens, ça avait été une révélation. C'était exactement ce que j'aimais.
Est-ce qu'il y a une façon de travailler en partant des personnalités, en partant, c'est ça, de ce que vous proposez ?
Oui, on part de soi, oui. Vous voyez, je vais dire, dans sa limite considérable aussi, enfin, que ça a été un petit peu pour moi, le petit personnage des chiens, c'est un peu une caricature de moi-même. Les livres, le cinéma, le un peu timide, etc. Voilà, donc ils ont fait une victime. Évidemment, mes parents n'étaient pas du tout comme ça. Ils ont pu être sévères, etc. Bon, ça n'a absolument rien à voir, bien évidemment. Et donc, mais ce qu'il y a, c'est ce retournement qui était très fort, évidemment. Et donc, voilà, donc on a exploité à fond ces petits trucs qui étaient un peu caricaturaux chez moi, quoi.
Et je crois qu'avec Jérôme Deschamps, vous avez participé à un opéra, Les Brigands,
oui, c'est
de
ça.
Jacques Offenbach.
Exactement, qu'on avait fait décembre 93, je crois, à l'Opéra Bastille, entre autres. Oui.
coq, un brigand, traître bandit.
À moi, quel est ce prix?
Les trois millions,
il ne les a pas.
À qui peut en faire, tu nous le paieras.
À moi,
que me dirait tout ce tapage?
On m'étrangle en outrage.
Parce qu'il ne veut pas payer.
Monsieur ne veut pas nous payer.
Monsieur,
n'écoutez pas, cet homme est fou.
Votre caissier, il n'a pas le sou. Expliquez-vous, monsieur.
Oh mon prince, écoutez.
Est-ce ainsi que mes volontés?
Chut, pas un mot de plus. Écoutez.
Monseigneur, une seconde ambassade de Grenade.
Encore.
Il y a des gens qui se disent espagnols, et ils ne sont pas du tout espagnols. Nous sommes pas de vrais espagnols, et ça nous distingue des faux espagnols.
Moi je suis
cela,
c'est la bande à Falsacapa, les campagnes Falsacapa,
passez le mot, passez le mot.
Nous sommes perdus, nous sommes perdus, et nous allons être pendus. Nous sommes perdus, nous sommes perdus, car nous allons être pendus.
Venez-moi pendre ces gaillards-là,
nous sommes flambés cette fois.
Venez-moi pendre ces gaillards-là, ces gaillards-là.
Bon,
bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon
La dernière scène des brigands de Jacques Offenbach, ici par l'Opéra de Lyon, dirigée par John Elliott Gardiner. Vous, Olivier Broche, vous aviez connu une autre version dirigée par Jérôme Deschamps et Macha Makaïev. Vous me disiez, pendant qu'on écoutait cette musique, Michel Sélechal était dans la distribution.
Oui, voilà. Alors, c'est Rodolphe Riant qui avait repris le rôle ensuite, mais à la création de la mise en scène de Jérôme Deschamps et Macha Makaïev des brigands à Amsterdam, c'était Michel Sélechal qui était extraordinaire. Aussi, Rodolphe Riant n'était pas moins bon, loin de là. Mais c'est vrai que la figure historique de Michel Sénéchal était évidemment incroyable. Voilà, il nous avait tous beaucoup impressionné.
Qu'est-ce que vous avez appris en voyant jouer et chanter Sénéchal?
Bon, c'est ce qu'on voit toujours quand on voit quelqu'un qui a du métier. On voit la liberté. Et qui se fermait énormément de choses, quoi. Et ça, c'est fort. Et puis la beauté de la voix, le placement de la voix, et puis la liberté du corps, enfin, tout ça, c'est formidable sur scène d'avoir des gens, et puis beaucoup d'humour, évidemment. Et il en faut pour jouer au Offenbach, et surtout dans la mise en scène de Jérôme Deschamps et Macha Makaïev.
Vous aviez un rôle théâtral?
Non. Enfin, on était muets, on était dans les chœurs, etc. Et j'étais déguisé en femme, je faisais 50 petits rôles, on passait partout, on faisait vraiment beaucoup de bêtises surtout, quoi.
Qu'est-ce que vous avez appris sur l'opéra par cette expérience?
Oh ben, un petit peu sur l'opéra. C'était à l'Opéra Bastille que ça avait eu lieu des représentations, donc au mois de décembre 93, je crois, pendant la période des fêtes, et c'était très impressionnant. C'était très impressionnant. En même temps, on n'a pas du tout le même rapport au public, hein, quand même. Il y a l'orchestre, là. En plus, nous, il y avait non seulement l'orchestre, mais il y avait les chanteurs qui nous impressionnaient énormément. On est dans un autre monde, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, quand on était petit comédien là-dedans, entouré de ces gens qui faisaient si bien de la musique et qui chantaient si bien, on était enveloppé, habillé par elle, et c'était un grand moment, évidemment. Et je le vivais presque plus comme spectateur que comme acteur.
Francisca's code de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut puisque c'est mon gars, Bruno Locher. Comment t'appelles-tu?
Bruno Locher.
Bruno Locher, tu as quel âge?
31 ans.
Et tu fais plus? Et tu cherches un?
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non. L'amour est enfant de bohème.
Non, ça ne dit rien, non.
Rien du tout. Donc, quelle est ta motivation première?
Surtout, gagner pas mal de pognons.
Pas mal de... T'en fous plein les fouilles, on peut dire, ça. D'accord?
Surtout, m'en fous plein les fouilles, oui.
Et ça, on s'entre rien foutre, enfin...
Oui, voilà.
D'accord, oui. Donc, tu accepterais de travailler peut-être assez loin, parce que des fois, il y a des opéras qui sont quand même à Miami, à Clotezout.
Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est rester aux alentours de la Sarthe.
Plutôt la région de la Flèche?
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord, la Flèche de Rigné.
Oui, Parigné-l'Évêque, Ivry-Paulin, Changé.
Caligny.
Oui, aussi.
D'accord, oui. Que ça ne soit pas trop loin.
Voilà, que ça soit pas trop loin.
Et quand même que... Parce que des fois, c'est le soir, les opéras.
Oui, mais...
J'ai pensé à ça, je me suis dit... J'en parle à M. Locher, je veux dire, c'est quand même souvent le soir.
Oui, mais comme moi, j'ai le gamin à aller chercher le soir...
J'ai pensé à votre gamin. Oui. Comme ça, je dis, donc plutôt l'après-midi.
Oui, voilà, je préférerais l'après-midi.
14h, 17h, enfin.
Oui, ça serait très bien, ça.
Hein,
oui.
Comme ça, ça permet de ramener le gamin après.
Oui.
Et puis d'être à la maison vers 18h ou 18h30, pour question pour un champion.
Oui.
D'accord, bon. Eh bien, donc, si quelqu'un est à Bastille,
non. Il n'en est pas question, hein.
Voilà.
Moi, j'ai pas envie de me faire baiser.
D'accord.
Tant qu'ils n'ont pas changé le directeur. Je travaillerai jamais là-bas. Hein.
D'accord, bon, c'est clair. Donc, s'il y a un directeur d'opéra qui est intéressé par mon gars Bruno Locher, donc un directeur d'opéra dans la région de la Sarthe, hein, la Flèche, d'accord, pour travailler l'après-midi, bon, il tapote 3615 code de qui n'en veut.
Oui.
L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais...
Non,
ça vous dit...
Non.
L'amour... Non.
Bruno Locher et François Morel, vous avez improvisé ce petit sketch au même moment, c'est ça?
Alors François et Bruno là ont improvisé ce sketch alors que effectivement c'est totalement au moment où nous étions en train de participer aux brigands à la Bastille.
À l'Opéra Bastille.
À l'Opéra Bastille, oui.
Entre 14h et 17h.
Entre 14h et 17h, ça doit être à peu près l'heure de l'enregistrement effectivement du sketch.
Comment est-ce que vous rencontrez Jean-François Novelli?
Alors j'ai rencontré Jean-François Novelli, la première fois que je l'ai vu c'était à Prague, parce que j'allais tourner dans un téléfilm, et par avec j'étais avec ma femme et mes enfants, et il y a une amie qui était là-bas qui me dit « Ah, tu vas rencontrer, il y a un ami à moi qui est chanteur lyrique, etc. » et qui se produit dans un opéra baroque à Prague, ce serait bien que tu le rencontres, et c'est comme ça que je l'ai rencontré là-bas. Voilà.
Car est plongé nuit et jour, mille souhaits d'un aspect des misères humaines, le trouble tant secrète, l'agite tour à tour. Il scende ici, au ténébreux séjour, sans cesse déchiré par des vautours avides. Ressamwe vivement, leur fureur d'homicide.
L'air d'Héraclite de Jean-Baptiste Stuck, chanté ici par Jean-François Novelli dans l'album Tyrannique Empire des Lunésiens. C'est un album qui est sorti en 2006. Vous avez donc parlé de votre rencontre, Olivier Broche, avec le ténor Jean-François Novelli. Vous en avez tiré un spectacle de cette rencontre, en quelque sorte.
C'est ça, mais ça c'est bien après. Entre-temps, c'était revu et je l'avais un petit peu aidé dans ce spectacle qu'il avait fait à partir de contes drôlatiques, de érotiques, de La Fontaine, qui avait été mis en musique par Antoine Salaire.
Et mise en scène par Juliette.
Et moi, je l'avais, c'est comme ça qu'on avait commencé à travailler ensemble et je l'avais aidé un petit peu pour le jeu d'acteur.
Comment est-ce qu'on aide un chanteur comme ça? On l'aide à projeter une voix parlée? À articuler différemment la voix chantée? Quel est votre point de travail?
Mon point à moi, en tout cas, ça a été plutôt de nettoyer, essayer de rendre les choses les plus simples possibles, oublier la projection, oublier la surarticulation, etc. C'est au contraire arriver à une espèce de simplicité qui demande parfois l'art le plus grand. Comme c'était une phrase de Murnau que j'avais lue, l'art simple demande l'art le plus grand. L'art réel demande l'art le plus grand. Et je crois que c'est vrai parce qu'il faut vraiment arriver là pour le jeu d'acteur, en tout cas par le bas, si vous voulez, par une simplicité de respiration. Dire simplement un texte, simplement, ne pas penser, dire la chose, faire en sorte qu'elle parvienne. Avoir une idée d'une adresse, évidemment. Mais l'adresse, elle ne peut pas être la même, évidemment, en musique, que quand il n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez. Donc voilà, je lui dis, mais essaye de le dire le plus simplement possible. Et puis après, on va élargir, on va essayer de projeter, etc. Mais déjà, essaye de penser un petit peu ce que tu dis, mais pas trop non plus. C'est ça qui est toujours assez difficile. Mais moi, j'y arrive pas non plus. Enfin, j'ai l'impression de progresser là-dessus, et de savoir que finalement, trouver la bonne respiration, mais sûr que c'est valable en tout, c'est arriver à acquérir le maximum de liberté. Parce que quand vous êtes totalement détendu et que vous respirez bien, finalement, il y a énormément de choses qui peuvent enfin sortir.
Et la différence entre voix parlée et voix chantée, la différence de projection?
Alors, je pense que elle est différente si vous êtes un chanteur de chansons, etc., variété ou autre. Et le chanteur lyrique, et ça, il me l'a bien expliqué, Jean-François, que la respiration, le rapport à la voix n'est pas du tout le même. Donc je pense que ce qui est difficile pour Jean-François, c'est par exemple, quand il a terminé de chanter, de redescendre, et pour venir nous parler comme on est en train de se parler en ce moment, parce que c'est ça quand même à quoi il faut à peu près arriver avec un texte, évidemment, qui est le texte de Berlioz ou de Maupassant et de Flaubert, parce qu'on a glissé dans le spectacle des extraits de Fort comme la mort de Maupassant et de Madame Bovary de Flaubert. Donc arriver à redescendre, et c'est pas toujours facile pour lui.
Dès ma prime jeunesse, j'ai charmé mes proches de ma jolie voix naturelle. J'ai débuté entre les mains d'un professeur habile, plein de science, de patience, de sentiments, de goût, qui m'a initié aux beautés des chefs-d'œuvre de l'art et m'a façonné au grand style du chant. Marel, François Marel, il m'adorait, il adorait ma voix. Il ne pouvait m'entendre chanter sans attendrissement. Souvent, incapable de maîtriser son émotion, je l'ai vu fondre en larmes aux accents du fils adoptif que j'étais devenu pour lui. Quelquefois, il se plaisait à unir sa voix chevrotante, un peu laide, assez fausse, à ma voix pure et mélodieuse. À cette époque, la mode était aux romances. J'avais un très bon ami, Hyacinthe Jadin, il adorait ma voix aussi. Et il me composait des mélodies. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire entendre la mélodie, la romance à la lune. « éclat, paisible et tendre, et le jour qui convient au cœur. Un pas léger vient agiter l'ombrage dans ce séjour qui peut troubler la paix. Si c'était elle, fuyons dans ce bocage, protégez-moi la fin de entrevu la puissance d'émotion dont j'étais doué, que j'ai aspiré au trône. J'ai voulu, malgré mon maître François Marel, qui ne pouvait se résigner à ce que je le quitte, débuter et régner. Un théâtre de second ordre m'ouvre ses portes. J'ai débuté. Je fus copieusement sifflé. Pourtant, j'avais bien chanté. Indigné de cet outrage, je rompis au plus vite mon contrat à l'amiable, le cœur plein de mépris pour mes compatriotes, et je partis au plus vite pour l'Italie, patrie du beau chant.
Un extrait du spectacle Ma vie de ténor que vous mettez en scène Olivier Broche. Jean-François Novelli est au chant et
Romain Vaille au piano.
Et Romain Vaille au piano. Le chanteur et le pianiste étaient les invités dans l'émission Génération France Musique de Clément Rochefort. C'était samedi 5 septembre dernier et c'est évidemment à réécouter sur francemusique.fr.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Donc vous mettez en scène, Olivier Broche, un ténor assez insupportable. D'où vient cette idée? Elle remonte à Berlioz. C'est bien ça?
Alors, le spectacle, donc, c'est une idée de Jean-François qui est venu me voir. Il avait déjà expérimenté cette idée à l'occasion d'un spectacle avec d'autres musiciens, en s'inspirant donc d'un texte de Berlioz extrait des soirées d'orchestre donc de Berlioz, et un texte plus précisément qui s'appelle « La révolution du ténor ». Et alors donc ce texte est une véritable descente en flammes du ténor, c'est extrêmement mordant, donc c'est un texte de Berlioz qui s'est inspiré d'un très célèbre ténor de l'époque qui s'appelait Gilbert Gilbert Dupré, très fameux. Et la preuve c'est que je l'écorche son nom, Gilbert Dupré, donc qui avait... Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, inventer le contrut de poitrine, qui a bouleversé complètement l'art du chant.
La technique du
chant. Et
la
technique vocale, hein, ouais. C'est ça, à l'époque.
Jean-François Novelli, j'imagine, en parle, vous
oh,
en avez
oui,
parlé.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr.
Et au lieu de falsettiser, effectivement, les contrutes, je crois que c'était le premier à poitriner des contrutes, ce qui demande une certaine technique, oui, je crois. Et donc, c'était la cible de Berlioz.
Et il a été particulièrement... Alors, je crois qu'il avait créé le rôle dans Benvenuto Cellini, et puis après, il avait dû retravailler avec Berlioz. chose, mais enfin, ça s'est pas passé au mieux. et peut-être qu'il y a eu des problèmes avec d'autres personnes et d'autres ténors, Berlioz, mais enfin, bon, voilà. Il fait un portrait. Alors, ce qu'on a fait, c'est que c'était un texte à la troisième personne, très, très, très méchant. Et,
Il savait être cinglant.
Là, il pouvait l'être et il l'est en particulier.
Pour les instrumentistes et particulièrement pour les chanteurs, ouais.
D'accord. Particulièrement pour. Alors, c'est vraiment, et il en fait une figure à l'ego vraiment surdimensionnée qui impose ses choix esthétiques aux compositeurs, au public, qui exige des cachets absolument faramineux qui ruinent les théâtres. Enfin, c'est une catastrophe économique et esthétique pour Berlioz. Donc, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné le texte de quelle façon qu'on l'a mis à la première personne. Et on a voulu assumer l'arrogance et l'ego surdimensionné, comme je disais, de ce personnage-là, qui vient nous raconter un peu sa vie. Parce que Berlioz raconte un petit peu, donc à chaque moment de sa vie, il règle son compte, donc ce personnage a ce type, d'ailleurs, plutôt de personnage. Voilà. Et on a rajouté des bouts de texte qu'on a pris à droite, à gauche, etc. Et en particulier, par exemple, à un moment, on est même allé chercher chez Maupassant et Flaubert, donc, comme je disais, dans Fort comme la mort et dans Madame Bovary, des passages où des personnages vont à l'opéra et sont sensibles au charme, à la puissance vocale, à la puissance de rêve et d'imagination que suscite aussi ce genre de personnage.
Est-ce que les ténors sont si insupportables que ça?
Ah bon, c'est pas moi qui vous le dirai. il paraît. Ils peuvent l'être.
Alors on quitte l'univers des ténors pour celui des barytons. Voici Dietrich Fischer-Dieskau dans Le Voyage d'hiver de Schubert.
Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Mit dir gehen. Willst du meine Liebe?
Dietrich Fischer-Dieskau et Klaus Billy dans ce voyage d'hiver de Schubert. C'est un enregistrement de 1948 et c'est un enregistrement qui vous intéresse particulièrement, je crois, Olivier Broche, parce que vous vous intéressez à la musique, au cinéma. C'est une de vos portes d'entrée dans la musique, ou la musique est une porte d'entrée dans le cinéma? Dans quel sens ça va?
Alors, j'ai d'abord écouté de la musique avant vraiment de m'intéresser au cinéma, mais c'est aussi une porte d'entrée quand même, le cinéma, qui me fait redécouvrir, me fait apprécier, ou on peut m'agacer beaucoup dans l'utilisation qui peut en être faite, etc.
Parce que la surexploitation,
oui, quelquefois plaquée, ça donne un sens aux images que les images sont pas capables de donner, et celui qui est intraitable avec ça, et je le trouve un peu excessif, c'est Rohmer, vous savez, lui qui ne met jamais de musique, comme on dit, extra-diégétique, pour employer un terme qui fait un peu savant, dans ces films où il y en a très très peu, c'est très rare. Au début du Conte de Printemps, on entend la sonate de Beethoven, le printemps précisément, un tout petit peu sur à l'arrivée de cette fille qui est professeure de philo, qui sort de chez elle, on voit dans la rue, elle arrive chez elle, puis ça s'arrête, et on réécoutera de la musique, mais là, intra-diégétique, mais mise par, je crois que c'est Uchester qui fait écouter une cassette de sa fille qui joue le début des études symphoniques, Schumann. Mais sinon, il n'y a jamais de musique, et il la condamne pas mal, tout en reconnaissant que certains cinéastes ont pu magnifiquement l'utiliser, que ce soit évidemment Bernard Herrmann et dans Hitchcock, pour citer un des plus grands, que ce soit Delerue évidemment, Godard, Truffaut et tant d'autres, et puis surtout Godard, comment il a utilisé lui assez génialement la musique de Beethoven en particulier.
Et là, ce Schubert, ce voyage d'hiver de Schubert, c'est en l'occurrence c'est Bergman.
Alors c'est Bergman dans un de ses derniers films qui s'appelle En présence d'un clown, je me demande d'ailleurs si ça doit être un film qu'il avait fait pour la télé, enfin, qu'importe d'ailleurs, on l'a vu au cinéma aussi, et c'est un de ses derniers films assez sombre, dans un asile, où il y a un des personnages qui va d'abord nous faire écouter ses premières notes du dernier lead des voyages d'hiver de Schubert, donc qui s'appelle Le jour de Vielle, hein, je crois que...
Der Leiermann.
Et on entend, mais ça s'arrête là, juste avant qu'on entend la musique. Et on va l'entendre à plusieurs reprises.
Et ces notes de piano.
Ces notes de piano que Bergman nous impose d'écouter. C'est-à-dire que c'est le personnage qui remet le disque, qui nous le fait écouter, là, justement. Et on n'a pas d'autre issue. Il n'y a pas la caméra, elle ne va pas chercher ailleurs, elle ne va pas à la fenêtre, elle ne se promène pas. Non. On est sur le tonnet et on n'a pas d'autre choix que de l'écouter. Et il y a quelque chose de... Et alors donc moi là je fais référence à un livre assez passionnant que j'ai lu qui s'appelle 4 temps 3 mouvements, qui est un recueil d'entretiens de Philippe Cassard, un des...
Qu'on connaît bien sur France Musique.
Que vous connaissez très bien sur France, que vous connaissez très bien, et très bon pianiste et par ailleurs, et qui a écrit un recueil d'entretiens qui s'appelle « Deux temps, trois mouvements » aux éditions Capricci, qui sont des entretiens qu'il a tenus sur la musique au cinéma avec Marc Chevret et Jean Narboni, d'anciens rédacteurs des Cahiers du cinéma. Et ça, je recommande aux gens qui s'intéressent à la musique, c'est vraiment passionnant, et il y a par moments des discussions vraiment, vraiment incroyables, en particulier par exemple sur un film, moi, que j'avais toujours considéré comme extraordinaire, comme étant le film qui répondait à la question comment filmer la musique, Chronique d'Agna Magdalena, Bach de Straub et Huillet. Et alors lui, il est terrible avec ce film, qui trouve que c'est une véritable catastrophe. Et je trouve ça très bien de réviser un petit peu comme ça ses jugements.
Et je crois, Olivier Broche, qu'en matière de critique de cinéma, vous vous y connaissez.
Thank you.
La romance sans parole en ut majeur, opus 67, numéro 4 de Félix Mendelssohn, dite La Fileuse. Cette romance sans parole est jouée ici par Daniel Barenboim et c'est précisément l'interprétation retenue pour l'indicatif musical du Masque et la Plume sur France Inter. Et si on parle du Masque et la Plume, c'est parce que vous êtes le temps d'une mise en scène, Jean-Louis Bory, aux côtés d'Olivier Saladin qui lui incarne Georges Charansol. C'est un spectacle qui s'appelle Instant Critique et vous amusez à reprendre comme ça des instants un peu où ça chauffe au Masque et la Plume.
Ah, on a délibérément choisi que les instants, ou pratiquement que les instants où ça chauffait entre eux. Alors plus précisément, c'est François Morel qui a eu cette idée-là.
Qui
a eu l'idée au départ.
D'accord.
Après, lui et moi, on a écouté et on a supprimé tous les autres intervenants. On a gardé que les conflits, les discussions qui opposaient directement Charansol et Bory. Et donc, et après François, et on a sélectionné là-dedans, réécrit, et ensuite François a fait la mise en scène de ce spectacle qu'on a joué entre 2011 et 2013 et qu'on doit reprendre, je dis doit reprendre, en janvier 2022 au théâtre de la Scala, normalement, voilà, à Paris. Et peut-être en tournée, j'espère aussi. Et donc c'était des joutes oratoires avec Lucrèce Sacella qui était elle au piano et qui jouait la fileuse d'ailleurs à la fin et qui nous accompagnait en chantant des chansons extraites de films de Godard, de Truffaut, etc. Et c'était c'est un très très bon souvenir. Hein. Puis moi d'incarner Jean-Louis Bory, évidemment, c'était le rêve pour moi de parler avec les mots de Jean-Louis Bory pour exprimer mon amour du cinéma, si injuste soit-il parfois, il faut bien le dire, en particulier en ces temps où Louis de Funès a droit à une exposition à la Cinémathèque, lui le massacrait, le détestait, et donc je dis ma haine pour Louis de Funès, la haine de Jean-Louis Bory pour Louis de Funès à cette époque-là, et c'est le cas des intellectuels, hein, vraiment qui détestaient pour beaucoup, en tout cas Louis de Funès, et donc c'est une autre époque.
C'est inversé, c'est-à-dire que vous écoutez la radio et vous mettez en scène de la radio.
Oui, c'est ça, effectivement. Et ça, c'était une vraie question, comment mettre en scène ça. Et puis finalement, François réglait ce problème en nous mettant l'un et l'autre dans une salle de cinéma. C'est-à-dire, finalement, le décor, c'est une salle de cinéma un peu abandonnée où il y a deux types qui discutent, deux types qui se prennent pour Bory et Charansol, en somme, mais qui parlent avec les mots de Paris Chanson et qui s'engueulent en faisant comme s'ils étaient Bory et Charansol sur, donc, je vous dis, Pasolini, Houry, Godard ou Truffaut.
Et un autre spectacle aussi auquel vous participez, c'est un spectacle sur François Mitterrand.
Ah oui.
Ça m'intéresserait en parliez. Mais tout d'abord, on va écouter une Marseillaise un peu spéciale, une Marseillaise de 1911, la Marseillaise des requins par les Lunésiens.
Allez, petits soldats de France, le jour des poires est arrivé. Au cœur de la fournaise, vous tombez une balle au front. De nombre commis, nous causerons
au feu de nos
la Marseillaise.
Guerriers pleins de courage, petits fils de la liberté.
sois plus qu'un immense chandelier. Ne sois plus qu'un immense chandelier.
Devant le récit de toutes ces misères, en ouvrant le journal de demain,
nous sommes en nous frottant les mains.
Ça ne biche pas trop mal les affaires.
La Marseillaise des requins, réquisitoire contre la finance, sur des paroles de Gaston Coutet, qui date de 1911. C'était les Lunisiens, Jean-François Novelli, ténor, Arnaud Marzorati, baryton basse, et Isabelle Druet, ainsi qu'Antoine Bitran à l'orgue de Barbarie. Il y a décidément beaucoup d'orgue de Barbarie ce matin dans Musique et moi. Ce réquisitoire contre la finance, quel bilan est-ce que vous faites, vous, de François Mitterrand pendant ce spectacle?
Alors, c'était un texte d'Hervé Le Tellier qui était un texte, donc, qui est devenue une pièce de théâtre, mise en scène par Benjamin Guillard. Donc, elle a été adaptée. Et donc, j'incarnais ce personnage qui écrivait à François Mitterrand quand on montrait une carte postale et qui recevait une lettre qui était pour le spectateur et pour n'importe qui une lettre type, mais lui que lui recevait comme une lettre personnelle. Sur ce, il répondait « Oh merci, j'ai été très touché de votre réponse, etc. » Voilà. Et il recevait à nouveau, quelques mois après, une lettre qui était exactement identique à la précédente, que lui prenait à nouveau pour une lettre personnelle et très différente de celle qu'il venait de recevoir. Et ainsi de suite, c'était 35 ans de correspondance qui commençait avec Mitterrand, avec Chirac, jusqu'à Macron. Enfin, il y avait jusqu'à Chirac et puis... Quand Macron a été élu, on a rajouté quelques petites lignes comme quoi, évidemment, il continue à donner ses conseils à Macron, qui les écoutait, évidemment, religieusement. Et donc, voilà, c'était cette interaction à partir d'un homme complètement fou, et qui composait par ailleurs des chansons, donc ce qui faisait d'ailleurs que je faisais un petit peu de piano et que je chantais très mal les chansons qu'il écrivait. Et donc, voilà, donc c'était un seul en scène assez amusant à faire, parce que un peu fou, et la folie atteignait le moment où il comparait la lettre de Chirac et la lettre de Mitterrand qui était mort, mais qui continuait évidemment à lui répondre, parce qu'il avait reçu une lettre de Raymond de l'Élysée, etc. Donc il comparait les deux lettres. Et c'était assez un grand moment de comparaison de deux lettres totalement identiques.
C'est la première fois que vous faites un seul en scène?
J'en avais fait un d'après un texte de Morel dans les années 90, qui s'appelait « Adrien les mémoires », et qui est devenu, quand François l'a joué au théâtre début des années 2000, « Les avis du dimanche ».
C'est resté une grande famille pour vous, les défiants,
Alors,
François Morel...
François Morel, Olivier Saladin, tout particulièrement, qui sont devenus deux amis et qui sont devenus très chers et que je vois et avec qui je continue aussi à travailler autant que possible.
Est-ce que le travail en théâtre comme ça, entre acteurs, peut ressembler à de la musique de chambre?
Oui, moi je pense, parce que, et finalement je me suis aperçu d'une chose, combien j'aimais jouer avec d'autres en jouant seul, moi et François Mitterrand. Ça me manquait quand même de pas jouer avec d'autres. Donc, quand, par exemple, juste après, un des premiers spectacles que j'ai refait, c'est Penser qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser quelque chose que j'ai joué à Belleville et que je vais reprendre, qu'on va reprendre à Troyes avec Anne Giroir et Vincent Debosse dans la petite salle de la Scala en janvier-février. Mais c'est un régal, j'ai l'impression de jouer en écoutant, en partageant les choses, parce que quand vous jouez, finalement, vous répondez. C'est-à-dire que, c'est pas que je fais une proposition, je fais une à la limite une contre-proposition, mais je veux dire, ça dépend de ce que m'envoie l'autre et je lui renvoie la balle, ouais. Et c'est ça, comme ça, la musique de chambre. Finalement, c'est des gens qui échangent entre eux d'égal à égal. Et c'est chacun avec sa partition, chacun avec sa note à lui. Et c'est super de jouer avec plein de personnes. Parce que les choses vont meilleures aussi, hein. On est meilleur en fonction des gens avec qui l'on joue.
Comme dans un quatuor à cordes de Beethoven?
Exactement.
Est-ce que les musiciens se rendent meilleurs en jouant les uns avec les autres? C'est une bonne question. Dernier mouvement du Quatuor à cordes numéro 16 en fa majeur opus 135 de Ludwig van Beethoven, c'était le Quatuor Ébène dans une intégrale des Quatuors de Beethoven paru cette année chez Erato. Merci beaucoup Olivier Broche, comédien, metteur en scène de Ma vie de ténor.
Merci à vous.
Avec Jean-François Novelli sur scène. Représentation les samedis 26 septembre à Éragny-sur-Oise dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise. Et les 8 et 9 octobre à La Rochelle. Vous trouverez tous les détails sur le site francemusique.fr. À la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard, réalisation Marie Groux, attachée de production Marie Ferdinand. La semaine prochaine, je recevrai Annick Cogent, la journaliste Annick Cogent, pour son livre Une farouche liberté. Ce sont des entretiens avec la féministe et avocate Gisèle Halimi. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.